Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je rappelle que la commission parlementaire voulait mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Et elle a tourné au procès au communautarisme, puisque ce jeudi, des députés de La République En Marche et également des Républicains, notamment Anne-Christine Lang, qui est députée de La République En Marche, ont quitté l'audition de représentants de syndicats étudiants. Et la présence de la représentante de l'UNEF, vice-présidente Mariam Bouchetou, est la raison de ce départ. Alors nous sommes avec Arnaud, qui est là, et qui trouvait que c'était une provocation de la part de la vice-présidente de l'UNEF.
Oui, parce qu'en fait, elle savait très bien ce qui allait se passer. C'est-à-dire que déjà, elle a fait parler d'elle lors des dernières élections, je crois, de l'UNEF, et que le voile, elle a été représentée comme ça. Bon, après, ça regarde l'UNEF, hein, je dirais. Mais en venant à l'Assemblée nationale, dans une commission, en continuant à s'afficher comme ça, forcément, elle allait au clash.
Faut préciser que le règlement de l'Assemblée nationale n'interdit pas Madame Bouchetou de porter ce voile. C'est très important de le préciser. Alors Anne-Christine Lang a dit que lorsqu'on est auditionné, on est d'une certaine manière, d'abord dans le cadre de l'Assemblée nationale, et puis c'est comme si on était dans, j'ai envie de dire, un salarié du service public, et dans ce cadre-là, on n'a par exemple pas le droit de porter le voile. Il faut être précis sur l'utilisation du port du voile en France.
Après, ça reste l'Assemblée nationale, et est-ce qu'il faut légiférer surtout pour avoir une légitimité ?
C'est un règlement, c'est pas une loi,
c'est un règlement. Oui, on peut parler plus largement de la laïcité en France. Est-ce que c'est normal que encore maintenant, en Alsace-Moselle, il y ait des crucifix dans les salles de classe? Est-ce que c'est normal qu'en Alsace-Moselle, on donne encore des cours de catéchisme dans les écoles de la République?
Vous m'étonnez qu'il y ait des cours de catéchisme dans une école publique. Ça m'étonnerait. Je voudrais vérifier ce que vous dites. Le crucifix, pourquoi? Peut-être, et déjà ça m'étonne, mais le cours de catéchisme...
C'est le droit local. C'est pas obligatoire, mais c'est dispensé dans les écoles de la République, Monsieur Pau. Et les députés qui ont quitté la salle, et je dirais que je leur donne raison, serait bien un peu de voir ce qui se passe en Alsace-Moselle depuis 100 ans. Mmh. Et on commémore cette année la défaite de 1870, et ça découle de cette défaite. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas régis par la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État.
Alors convenons aussi que la part historique, je ne parle pas de religion, mais la part historique de la religion catholique dans l'histoire de France n'est pas la même que la part de la religion musulmane dans l'histoire de France. La religion musulmane dans l'histoire de France, c'est une histoire récente, j'ai envie de dire, qu'on peut une quarantaine d'années, alors que la France, on disait jadis que c'était la fille aînée de l'Église, mais c'est vrai qu'on a 1000 ans et peut-être davantage, ou 2000 ans d'histoire du christianisme en France.
Si je peux me permettre, vous savez qu'il y avait déjà des juifs avant d'avoir des catholiques en France. Donc, moi personnellement, j'étais encore catholique encore pas tellement longtemps. Je me suis fait radier des registres de l'Église. Je suis plus du tout, je suis complètement athée. Et on n'est pas en Angleterre, c'est-à-dire qu'en Angleterre, les policiers sikhs, ils ont le droit de porter un turban, ils acceptent ça. Mmh. Et nous, on est en France, c'est une république laïque, et la laïcité doit s'appliquer partout et sans défaut.
Alors, est-ce que c'est qu'un problème de laïcité? On va continuer ce débat après la pub. Certains disent bien sûr que ce n'est pas un combat de laïcité, que ce qu'il faut voir derrière cette attitude de Madame Bouchetou, c'est un combat qu'elle mène contre la société française, contre ses mœurs, contre son histoire, et que ce n'est pas un signe religieux qu'elle affiche là, mais un signe politique. C'est en tout cas ce que certains ont voulu dire, et notamment Madame Lang. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est vendredi, je salue Laurent Tessier.
C'est vendredi, je salue Pascal Pro.
Il a fait très beau cette semaine, on va pouvoir partir au week-end, il va faire un peu moins beau.
Eh bien, merci pour ce point météo. Passons au sujet du jour, des députés Les Républicains. Une élue de La République En Marche indignée par le voile de la vice-présidente de l'UNEF. Ils ont quitté une audition hier à l'Assemblée nationale. Eh bien, ils ont eu raison, écrit Doumé sur la page Facebook. C'est lamentable, s'énerve Fernando. Bravo à celles et ceux qui ont quitté la séance, rajoute Monique. Porter le voile dans ce contexte est un acte politique. Mais une polémique pour rien, répond Bruno. Et si c'était une bonne sœur qui avait été auditionnée, ces députés seraient-ils partis? Et encore une fois, conclut Margot, on stigmatise. On attaque, on fait du bruit pour rien.
C'est pas la même chose si un imam, une bonne sœur ou un moine bouddhiste était venu, puisqu'il est dans son rôle, j'ai envie de dire, qu'une personne qui n'est pas imam, qui n'est pas bonne sœur et qui affiche sa religion. C'est un peu différent, si vous me permettez. Fabien est avec nous. Fabien qui est fonctionnaire.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Votre avis, Fabien?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je pense que vous prenez un peu des raccourcis et que c'est facile, en fait. C'est aux députés qu'il est interdit de porter des signes ostentatoires parce qu'ils sont... Ils sont agents de la fonction publique en exercice, on peut dire ça comme ça. Ce sont des représentants de la République. La laïcité, c'est ça. C'est l'État qui ne prend pas position pour telle ou telle religion. Là, vous êtes en train de créer une émission, un fil comme ça, où, en fait, qui est-ce qui est stigmatisé? Ce sont les musulmans. Et moi, j'ai un petit peu peur pour les libertés dans ce pays, au train où ça va. Madame, cette dame-là que je ne connais pas, je la connais pas, mais elle a tout à fait le droit de s'habiller comme elle veut dans le cadre d'une audition. Le tout, c'est d'être habillée proprement et d'avoir une tenue posée, etc., comme le dit l'article 8 et 9 du règlement de l'Assemblée nationale. Je vois pas pourquoi ça choque des gens, en fait. Elle n'est pas venue dire ici, il faut tous vous convertir à l'islam, l'islam c'est formidable. Elle est venue, en tant que femme, dire ce qu'elle avait à dire sur un tout autre sujet. Mais c'est les députés qui n'ont pas à porter de signes ostentatoires. Ce n'est pas à quelqu'un qui vient nous parler. Et les députés qui ont quitté l'auditoire, je suis vraiment déçu parce que je trouve que au-delà de la forme, il faut écouter le fond. Il faut écouter ce que cette dame avait à dire. Elle avait peut-être des choses très intéressantes à leur dire et qui vont conditionner ensuite leur décision. Et quand on refuse tout débat, quel qu'il soit, avec quelqu'un parce qu'il est habillé d'une certaine façon, c'est grave.
C'est votre avis. C'est pour ça que je ne vous ai pas interrompu. Vous portez le débat sur la laïcité. Moi, je ne pense pas du
tout. Surtout, vous dites l'islam en France, c'est depuis 30-40 ans. La chrétienté, c'est depuis 2000 ans.
Ah, c'est une réalité.
Non, c'est pas une réalité.
Ah bon ?
Il faut faire un petit peu d'histoire. L'Empire romain n'a pas été tout de suite chrétien. Hein. Il a fallu attendre quelques siècles. Hein. Et avant ça, l'Empire romain...
Vous avez compris le sens de ce que je voulais vous dire. C'est qu'on ne peut pas comparer... On ne peut pas... Parlez tout seul, si vous voulez, je ne vous réponds pas. Hein, si vous ne voulez pas que je vous réponde, il n'y a pas de souci.
Mais vous, je sais ce que vous allez dire.
Si vous le savez, c'est très bien.
Mais non, vous vous placez pour 2022 ou quoi, là? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ce que vous dites.
Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous pouvez dire précisément en quoi j'ai dit n'importe quoi quand j'ai dit que la France s'appuyait sur une tradition chrétienne et catholique depuis plusieurs siècles et que la religion musulmane est nouvelle en France et qu'elle a 40 ans? En quoi est-ce n'importe quoi de dire cela?
Mais pourquoi opposer les deux? Depuis 30 ou 40 ans, c'est pas les musulmans en France. Vous confondez islam et arrivée en France de maghrébins. Hein. La grande mosquée de Paris, elle a été construite et inaugurée dans les années 20. 1920, ça fait un siècle.
Mais je ne vous parle pas de ça, je vous parle de l'influence, monsieur, de l'influence de deux religions dont une a pénétré. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, puisque vous dites que je dis n'importe quoi. Il y a une religion catholique qui a pénétré nos vies depuis plus de 1000 ans. C'est un fait. Vous n'avez aucun village de France qui n'a pas d'église. Vous avez, je pourrais multiplier les exemples qui montrent son influence, du baptême jusqu'au mariage, en passant par les enterrements, qui sont des cérémonies catholiques et qui ont imprégné le corps social français depuis la nuit des temps. Et vous avez une religion nouvelle, que je ne nie pas, qui est en France depuis 40 ans, avec 6, 7 ou 8 millions de musulmans qui pratiquent une religion nouvelle et qui est la deuxième religion pratiquée en France. En quoi est-ce n'importe quoi de dire cela?
Vous dites des sottises.
Je veux bien, mais alors dites-moi ce que j'ai dit comme sottise.
La chrétienté n'a pas imprégné notre ADN depuis la nuit des temps, comme vous le dites.
Mais depuis combien de temps?
Vous avez entendu parler de la Révolution française. Et
mais la France existait avant la Révolution française, monsieur. Il faut bien que vous le compreniez. La France, c'est pas que la République.
Quand est-ce qu'elle est née de la France? Bien sûr. Mais j'ai jamais dit le contraire.
Moi, je ne vous dis qu'une chose, monsieur, qui est un fait. Mais je ne fais pas de débat autour de l'islam. C'est pas moi qui le fais. Ce sont des députés qui se sont levés.
Eh bien, ils ont eu tort.
Eh bien, c'est votre avis, mais ne dites pas que moi, je dis n'importe quoi.
Je vous ai dit au début qu'un député doit entendre quelqu'un qui vient en audition.
Eh bien, très bien. Si vous pensez que le message de Madame Bougetou est uniquement religieux, vous avez raison. D'autres pensent que c'est un message politique.
Je n'ai pas dit que c'est un message religieux ni politique.
C'est quel message, alors ?
J'ai dit qu'elle avait le droit de s'habiller comme elle veut quand elle vient en audition à l'Assemblée nationale et que c'est aux députés de ne pas...
Mais c'est votre avis. Et vous avez raison de le dire. Moi, je conteste que vous disiez que je dis n'importe quoi.
Mais non, c'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis, c'est le règlement de l'Assemblée nationale.
Mais vous avez parfaitement raison, c'est le règlement. Mais voilà. Moi, je ne conteste pas ça. Je conteste simplement que vous dites que je dis n'importe quoi quand je répète que la religion chrétienne et la religion musulmane ne sont pas à mettre sur le même plan sur l'influence qu'elles exercent dans la société française depuis 10 siècles.
Vous n'en savez rien. Vous n'en savez absolument rien. Qu'est-ce qu'on garde de la religion chrétienne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on garde?
15 jours fériés par an, monsieur. 15 jours fériés par an. Ça vous va?
Et alors? C'est pas moi qui les ai décidés, ces jours fériés, bon. Mais ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais ça imprègne juste notre vie au quotidien.
Ce sont lesquels, monsieur Pro? Vous dites n'importe quoi. 15 jours fériés, vous dites n'importe quoi.
Bah, Noël, le premier, Pâques, le premier...
Le 11 novembre, mais, ce ne sont pas des trucs religieux.
Mais si ce n'est pas 15, c'est 6, 7, 8, c'est Pâques, c'est le lundi de Pâques, c'est la Pentecôte, c'est le 15 août, c'est Noël, etc.
Dernière chose, monsieur Pro, les choses évoluent. Vous savez, à une époque...
Mais je n'en disconviens pas, monsieur, je n'en disconviens pas.
Une semaine de congé, c'était la grande fête Pâques. Une semaine à une époque. Aujourd'hui, il n'y a plus que le lundi de Pâques. Vous voyez, les choses évoluent, monsieur Pro. C'est pas parce qu'à une époque, effectivement, la fille était... La France était la fille d'une église.
Ah, bah vous admettez déjà qu'elle évolue, donc je n'ai pas dit n'importe quoi. Mais si elle évolue, ça, moi, je ne nie pas qu'elle n'évolue pas. Je ne nie pas qu'elle n'évolue pas.
Mais vous avez dit de tout temps. Voilà, de tout temps. Non,
ça fait 1500 ans, si vous voulez.
Vous savez que la religion chrétienne a même évolué et beaucoup d'historiens, dont Jacques Le Goff, se disent, est-ce que finalement le Moyen-Âge a été assez chrétien? Est-ce qu'il a été chrétien? Vous voyez, il faut se méfier des raccourcis un petit peu comme ça qui partent dans tous les sens. Voilà. Vous avez cité en début Madame Lang. Madame Lang, elle n'a pas tout à fait dit ça. Elle a dit, je n'ai jamais dit que sa présence était hors la loi.
Personne ne le dit puisque sa présence n'est pas hors la loi.
D'accord, mais alors qu'est-ce que ça gêne?
Mais c'est pourquoi nous en parlons et c'est pourquoi elle est partie. Le règlement de l'Assemblée nationale permet à Madame Pougetou d'être habillée comme elle était hier habillée dans cette commission. C'est clair.
Bien sûr.
Et je vous dis en parallèle, si vous pensez que Madame Pougetou n'affiche qu'un signe religieux, je pense que vous vous trompez. C'est aussi un message politique.
Je ne me suis pas positionné sur le fait qu'elle affichait un signe religieux ou politique. Mais non ! Mais politique de quoi ? Mais c'est n'importe quoi. Vous savez,
Madame Pougetou est une militante, de l'UNEF, et c'est une militante politique qui peut instrumentaliser l'islam à des fins sociétales. Certains peuvent le penser, cher monsieur.
Oh là là ! Non, là, franchement, ce que montrent les réactions de vos auditeurs, c'est qu'il y a, ça manque vraiment de fraternité aujourd'hui dans ce pays et de verbes aimés, de choses comme ça. Voilà, on est dans le médiocre, toujours dans l'invective, dans l'affrontement, etc.
Merci en tout cas de cet échange. On marque une page de pub. C'était important d'échanger parce que vous avez eu la liberté de parole et puis c'est intéressant. Merci Fabien de vous écouter. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et chacun peut donner son avis, comme cet échange avec Fabien, qui était d'ailleurs intéressant. Bonjour Eric, qui habite Sainte-Maxime. C'était un poil tendu, peut-être, notre échange.
Oui. Mais enfin, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire quand j'ai entendu ce que j'ai entendu. Donc, je ne vais pas rebondir et repolémiquer là-dessus, mais c'est un peu facile. Mais mais très intéressant, au demeurant, très intéressant. Voilà.
Votre sentiment, vous, sur cette scène, est-ce que vous trouvez que Madame Lang a eu raison de quitter la salle? On rappelle que le règlement permet d'être voilé lorsqu'on est auditionné. Il ne le permet pas dans le cadre d'une mission de service public, lorsqu'on est par exemple fonctionnaire, on n'a pas le droit.
Oui.
Mais
oui.
En l'espèce, lorsqu'on est en audition, cette dame pouvait garder son voile.
Alors je ne le sais pas, parce que je ne sais pas dans quelles conditions. Est-ce qu'elle l'a sortie et mis au moment où elle a été auditionnée, ou est-ce qu'elle est rentrée dans le bâtiment depuis l'extérieur avec je ne sais pas. Auquel cas, peut-être certaines personnes auraient pu lui faire la réflexion bien avant. Mais moi, avec le recul, je me dis deux choses. Premièrement, c'est une provocation politique, absolument, dans un endroit pareil, même si la loi peut plus ou moins l'autoriser. Je trouve ça assez... assez lamentable. Et puis d'un autre côté, je dirais, les députés qui profitent d'un coup d'éclat à moindre frais, d'un peu de publicité, qui se lèvent et qui claquent la porte, c'est assez lamentable aussi. Voilà. Je pense qu'on aurait pu s'entretenir avec cette dame, lui parler, lui expliquer peut-être. Mais une affaire, si vous voulez, au départ, qui est somme toute assez banale, finalement, on se retrouve aujourd'hui, vous et moi, et la France entière, au travers des informations, etc., à commenter la chose, c'est excessif. Voilà, c'est excessif. Enfin, c'est mon point de vue personnel, mais je le dis, voilà, il y a un moment... Il faut.
Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai échangé avec Anne-Christine Lang, c'est que les députés ont toujours la liste des intervenants. Et Madame Pougetou ne devait pas parler, c'était un autre représentant de l'UNEF qui devait parler. Et les représentants, les députés ont été surpris lorsque Madame Pougetou a pris la parole, ce qui confirme peut-être... l'idée qu'il y avait une volonté, d'abord, de créer, sinon un incident, en tout cas une provocation, puisque son nom n'avait pas été donné. Alors Salim est avec nous aussi, qui habite Bois d'Arcy. Alors c'est intéressant, Salim, parce que vous êtes très attaché à la laïcité, et vous dites, vous avez interdit à votre épouse, déjà je suis un peu étonné, que vous interdisiez à votre épouse de porter le voile. Salim, bonjour. Alors.
Bonjour Pascal. Enfin, l'interdire, c'est un gros mot. Hein. On en avait parlé, etc. Je lui avais fortement déconseillé parce qu'il y a quelques années, on en parlait. Alors, on est musulmans tous les deux. On est très pratiquants tous les deux. Par contre, on est arrivé en France. Moi, je suis arrivé en 2003. Ma femme est arrivée en 2009. Moi, ce que j'ai dit à ma femme, c'est que il faut comprendre. On vit en France. Voilà. Et moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la France, elle a un gros passé chrétien. Qu'on le veuille ou pas, d'accord, par rapport à un passé musulman qui est très récent. J'ai dit, voilà, la France, elle est très, très attachée à sa laïcité. Si tu mets demain le voile, si tu vas avoir des mauvaises expériences dans la rue ou dans le travail, malheureusement, les Français, la France, c'est un peu trop tôt pour eux. Il faut des années, comme, pour que, voilà, on puisse... voilà, et surtout ce qui s'est passé ces dernières années, avec la stigmatisation malheureusement des musulmans et tout. Moi, là où je suis un peu d'accord, c'est en disant que l'Assemblée nationale, ça doit rester un lieu neutre, d'accord ? À part si c'est un représentant d'une religion, pas de problème. Mais tout représentant, de quel que soit s'il arrive, il doit respecter ce lieu qui doit être neutre. Parce que derrière, c'est soit de la provocation. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas du tout notre culture et qui commencent soit à nous défendre, soit à nous attaquer. Je pense que c'est nous qui la connaissons beaucoup mieux. Je défie n'importe quel Français avec une grosse croix d'aller dans une assemblée algérienne. Et vous allez voir comment ça va créer un gros débat, comment la personne ne va même pas être autorisée à rentrer s'il a juste une croix sur une chaîne avec une grosse croix. Donc voilà, moi cette hypocrisie, ça me fait beaucoup de mal, parce qu'au lieu de rendre service à l'islam, ça nous fait beaucoup plus de mal. Voilà, la religion, ça doit être quelque chose qui doit être vécu à l'intérieur. On ne doit pas la montrer, on ne doit pas l'afficher. Voilà, si moi je suis croyant avec ma femme, c'est pour nous, c'est uniquement pour nous. J'ai pas demain à l'expliquer à l'extérieur, j'ai pas à l'imposer, j'ai pas à dire. Voilà, c'est la laïcité, on est en France, on doit la respecter. C'est ça les lois de la République. Alors que, et je comprends la députée qui sort. Bon, c'est un peu, peut-être derrière, c'est un peu exagéré le fait qu'il claque la porte, etc. Je pense que derrière, il y a un peu de problème, parce que l'UNEF, j'ai cru comprendre que l'UNEF, ils avaient quelques polémiques.
Pour le moins, et les liens effectivement avec parfois l'islam radical, hein, sont parfois, c'est des liaisons dangereuses, certains l'ont souligné en tout cas. En tout cas, merci pour ces paroles apaisantes, mais c'est vrai que vous avez raison, la religion, c'est de l'ordre de l'intime, et qu'on peut toujours s'interroger sur ceux, je ne parle pas évidemment de ceux qui sont prêtres ou imams, mais ceux qui affichent à l'extérieur ces symboles de cette religion. Lorsque c'est discret, il n'y a pas de souci, mais lorsque ça ne l'est pas, on peut s'interroger sur la motivation, forcément dans ces cas-là, de ceux qui affichent, quelle que soit la religion, je le répète. Il est 13h27, je salue Greg Caradoni qui est avec nous.
Bonjour à tous.
Merci. Alors, on va être avec le Tour de France dans une seconde.
Alors, le Tour de France partira à 13h45. Donc, nous retrouvons toutes les équipes du Tour à partir de 14h sur l'antenne.
Et grand débat, effectivement. Est-ce qu'il faut croire au Tour de France cette année? C'est un peu l'ère du soupçon. On va pas se raconter de salade. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors on est avec Louise et ça va être intéressant d'écouter Louise parce que c'est une autre génération. Louise a 19 ans, elle est étudiante à Sciences Po et elle veut réagir sur l'attitude de la députée Anne-Christine Lang qui a quitté la salle. Bonjour Louise.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
En fait je voulais vous parler du fait que là, on parlait d'une femme et on a eu beaucoup d'interventions d'hommes, enfin quasi... que des hommes qui ont donné leurs avis. En ce moment, on entend beaucoup parler de ce que portent les femmes à l'extérieur de chez elles, dans la rue, etc. Il y a quelques jours, il y a eu une émission sur RTL d'ailleurs, où on s'offusquait qu'une femme portait un décolleté en fait dans un musée. Aujourd'hui, on s'offusque qu'une femme est trop habillée dans un lieu public. Enfin. Je trouve ça abusé. Parce que.
Je suis d'accord avec vous, mais convenez que le rapprochement que vous faites, c'est pas du même ordre.
Effectivement, c'est pas du même ordre, mais si on fait quelques raccourcis, on pourrait dire qu'on s'offusque. Lorsqu'une femme est déshabillée, mais on s'offusque aussi quand une femme est habillée. C'est incroyable.
Oui, alors là, vous, effectivement, vous mettez l'accent sur le côté féminin. Ce que vous semblez dire, c'est que si c'était un homme, on n'en parlerait pas de la même manière. Si un homme était venu hier avec des signes religieux, on n'en parlerait pas de la même manière. Je crois pas. Je crois que les deux éléments sont disjoints. Hier, c'est un phénomène, effectivement. Alors, certains disent la laïcité, d'autres, c'est ce qui s'est passé, c'est un acte politique. On en a parlé. Et puis, l'autre sujet, c'était effectivement, vous avez parfaitement raison, et on en parlera aussi tout à l'heure, peut-être, une femme a le droit, dans l'espace public, de s'habiller comme elle le veut, et d'entrer dans un musée comme elle le veut. Alors, comme elle le veut, selon les règles de décence, elle ne va pas rentrer nue, j'imagine. Quoi, c'est même pas j'imagine, on n'entre pas nue dans un musée. Mais non. En dehors de cela, si elle veut porter un décolleté, pas de décolleté, des chaussures à talons, pas de chaussures à talons, c'est son problème. Je suis d'accord avec vous.
Après, ce qui m'a aussi fait réagir, c'est le fait que cette députée-là se revendique féministe. Or, pour moi, elle ne l'est pas du tout, puisque elle remet la faute sur une femme, en fait. Elle pense savoir elle dit que porter un voile, c'est rabaissant, etc. Mais en fait, je pense pas. Je pense qu'elle fait plus un raccourci islamophobe. C'est un peu fort comme mot, mais je trouve qu'il faut en parler. Parce que là, elle confond un peu laïcité et islamophobie, en fait.
Elle considère, Madame Lang, que l'image qu'elle a de la féminité et de la femme libre n'est pas celle qui est véhiculée par Madame Bougetou, qui apparaît dans un espace public voilée des pieds jusqu'à la tête. Elle considère, elle, avec sa sensibilité, son tempérament, son expérience, que ce n'est pas l'image de la femme qu'elle veut voir dans la société. Voilà.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est être féministe pour elle, c'est précisément défendre les valeurs de la féminité que de défendre le corps, le visage de la femme. Je l'interprète comme ça.
Le féminisme, c'est pas défendre la féminité, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas un gros mot, on est en 2020, on peut l'utiliser. Les hommes peuvent être féministes, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je trouve qu'elle s'accache beaucoup. Elle se cache beaucoup derrière la laïcité, derrière le fait de dire qu'elle est féministe, alors que c'est pas du tout le cas.
Bah, elle, c'est une partie, vous avez raison, c'est une partie de la féminité de considérer que la femme doit pouvoir être libre. Comment dire ? Alors, elle est libre, évidemment, Madame Bougetou, de s'habiller comme elle le souhaite, mais Madame Lang pense que précisément cet habillement-là vient percuter l'image qu'elle a, elle, de la femme, qu'une femme n'est pas voilée des pieds jusqu'à la tête. Je le répète, voilà comment j'interprète ce que dit Madame Lang.
D'accord, ben moi je trouve qu'elle a tort, parce que c'est une députée, et on parle des valeurs de l'État, et je pense qu'il y a une neutralité aussi à avoir dans des lieux comme ça.
Bah, elle considérait que cette neutralité, précisément, n'était pas respectée. Merci Louise, en tout cas, vous avez repris les cours là, à Sciences Po ?
Oui,
Sciences Po Paris ?
Comment ?
Sciences Po Paris ?
Non, c'est une licence à Caen.
À Caen ? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard ?
J'aimerais bien être assistante parlementaire et peut-être par la suite faire des élections ou des choses comme ça.
Bah, vous avez raison, vous voulez que je vous donne les coordonnées de Madame Lang ? Peut-être vous pouvez lui proposer d'être son assistante.
On pourra en discuter tous les deux.
Ah bah, voilà. Alors ça, j'aime. Vous voyez, ça, j'aime votre dernière réponse, Louise. On pourra en discuter tous les deux. Tant qu'on peut discuter de quelque chose tous les deux, comme vous dites, tout va bien. Et merci pour la qualité de votre échange et la qualité de ce que vous avez dit.
Merci à vous.
Et vraiment, c'était un plaisir de vous écouter, Louise. Il est 13h36. 19 ans, Louise. Hein, construit, raisonnement construit. Cher Grégory.
Elle pourrait être votre fille. Hein.
Bah, oui, 19 ans. On va parler d'autre chose. On va parler, figurez-vous, dans une seconde, de la tenue correcte exigée. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, ça fait réagir le voile. C'est toujours un sujet qui est clivant.
Alors, on va passer à un tout autre sujet.
Ah bah oui,
quand même.
Déjà.
Rien à voir.
D'accord. Alors, c'est la semaine dernière avec températures en hausse. Les tenues se sont allégées. Sur les réseaux sociaux, des histoires d'établissements refusant l'entrée des jeunes filles en raison de vêtements jugés provoquants se sont multipliées. De là sont apparus plusieurs hashtags. Hashtag lundi 14 septembre et libération du 14 pour inciter collégiennes et lycéennes à venir lundi en cours habillées comme elles le souhaitaient.
Et ces histoires de mini-jupes décolletées, nombrils apparents, vous font réagir sur la page Facebook de l'émission. Evelyne, bah, va droit au but. Hein. Je n'ai jamais aimé les tenues vulgaires. Mes filles sont toujours bien habillées. La beauté, eh bien, n'a rien à voir avec la vulgarité. Pas besoin d'étaler la marchandise pour être belle. C'est toute une éducation. Pour David, à 12-13 ans, on ne vient pas habiller en mini-jupes décolletées. C'est aux parents, hein, d'intervenir. Elles ne vont pas à la plage ou boîte de nuit, c'est l'école quand même. Véronique est aussi nostalgique. Nous étions obligés de porter une blouse, pas de différence, de string qui dépasse, de nombril à l'air. L'école est un lieu de travail bon sang, pas une fashion week. Et Olivier parle d'une génération, Pascal, génération
ça,
de diva.
Ça, c'est bien ça.
Voilà. Génération, plus, j'ai le droit. On mélange la sphère publique, la sphère privée. Génération, j'ai le droit.
Alors, on va faire un petit débat avec Corinne, qui est chef d'établissement adjointe. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Et avec
Pascal,
Céline.
Enchantée.
Et avec Céline, que je salue. Bonjour Céline.
Bonjour.
Parce que Corinne, vous vous dites, les jeunes filles ne peuvent pas se présenter le nombril à l'air. Et vous êtes chef d'établissement, hein, je le rappelle. Adjointe.
Alors oui, je suis chef d'établissement adjointe et dans un lycée professionnel en plus, où on forme des futurs salariés. Donc on insiste beaucoup le jour d'après-entrée sur la tenue vestimentaire. Et puis, donc ce matin, nous avons fait un exercice incendie. Donc tous les élèves étaient très bien et mon regard s'est porté sur une jeune fille. Je lui ai demandé de venir dans mon bureau et on a discuté ensemble. Et je lui ai dit qu'on n'était pas dans un club de vacances, que malgré la température, elle pouvait s'habiller comme elle le souhaitait, mais certainement pas dans la tenue où elle était ce matin. Donc voilà, je crois beaucoup dans la pédagogie avec les jeunes, et elle a tout à fait compris mes propos, parce que c'est vrai qu'on est dans un lycée professionnel avec 90% d'élèves masculins. Donc si on ne veut pas jouer la provocation, si on ne veut pas avoir des remarques négatives, parce qu'il peut y en avoir, eh bien c'est ne pas chercher à provoquer. Et il y a 15 jours de cela, à peine 10 jours, j'ai convoqué une jeune fille dans mon bureau, et elle a tout de suite dit, elle dit, je sais de quoi vous allez me parler. Et elle dit, je suis d'accord avec vous. Ah bon? Et je veux vous parler de quoi? Et elle avait un débardeur, et sa poitrine sortait de ce débardeur, et on ne voyait que ça. Et elle me dit, je comprends ce que vous me dites, je ferai attention la prochaine fois.
Donc, alors voilà, Céline vous répond peut-être. Céline vous répond.
Quoi dire? Voilà.
Je suis carrément estomaquée de voir cette dame
tellement sûr de ses réponses. Je tiens à rappeler qu'on est en 2020, d'accord ? Nous sommes dans des écoles publiques et non catholiques intégrisme. Que les choses soient claires. Parce que là, moi, je tiens à rappeler quand même qu'en 1980, vous pouvez remonter dans les archives, et en 1990, moi, je sors du lycée, j'étais en 95, on avait déjà des t-shirts courts. On avait même pire que ça, on avait des pantalons taille basse, madame, d'accord ? Avec toute la chaîne abdominale à l'air. Ça ne posait aucun problème. Que les choses soient claires. Vous cherchez à instaurer vos propres standards qui sont essentiellement basés sur le catholique, le catholicisme. On ne va pas se leurrer, c'est ça le truc. Donc c'est un vrai problème. Alors, là, les jeunes filles, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Après l'islam, on a un débat maintenant sur le catholicisme. Après la mode pudique, on a la mode impudique.
Sont fermés et ces gens-là sont venus se greffer sur les écoles publiques et instaurent leurs propres règles. On ne va pas se leurrer. Ça dépend d'un lycée ou d'un autre. Deux lycées publics peuvent avoir deux règlements différents. Ça, c'est inadmissible dans un pays qui se dit égalitaire dans l'éducation nationale, d'accord ? Moi, en 95, madame, on avait déjà les t-shirts courts. D'accord ? Ça m'a pas empêché de monter ma propre société, ça m'a pas empêché de tenir des postes à haut niveau. Que les choses soient claires. Les jeunes filles sont en construction. Elles ont besoin d'apprendre à connaître leur corps. Si elles ont envie de porter certains vêtements, c'est parce que justement, elles sont dans la construction d'assumer leur propre corps. D'accord ? C'est pas à elles de se museler et se cacher.
Céline, je peux vous poser une question ?
Parce qu'il y a des regards d'hommes dessus. Ça,
Céline, je
trouve ça
très choquant
venant cette dame.
Céline.
De dire, j'ai 90% d'hommes.
Céline, est-ce que je peux vous poser une question, Céline ?
C'est aux filles de s'adapter.
Elle m'entend pas, Céline ?
Non.
Est-ce que je peux vous poser une question, Céline ? Est-ce que vous avez des enfants ?
J'en ai deux. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et j'ai une grande qui a 16 ans.
À partir de quel âge, parce que moi j'avais 4 filles, à partir de quel âge vous considérez que c'est votre fille qui décide comme elle s'habille ?
En toute honnêteté, ça s'est fait naturellement. Je suis sur la bienveillance, je ne suis pas pour imposer quoi que ce soit. Donc de elle-même, à partir de 11 ans, même
à
11
ans, c'est elle qui a décidé chez vous ?
Oui, mais elle s'autorégulait tout à fait très bien.
Non, mais
bien
très bien, je vous pose la question.
À aucun moment, elle a eu l'idée de sortir en slip. À aucun moment. Et... Vous savez, les enfants ne sont pas bêtes. Il faut leur faire confiance. Ce n'est pas à des grands.
Confiance n'exclut pas. Comment dire ?
Mais
attendez. On est tous des parents. Moi, je suis un parent. Je considère que c'est les parents qui décident comment les enfants vont s'habiller jusqu'à 12
mais
ou 13 ans.
Mais ils savent très bien s'autoréguler.
Non, ils
ne
savent pas. Ils ne savent pas forcément. Non, là, vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Peut-être vous aviez une fille mûre, formidable, très intelligente, etc.
Tout le monde n'est pas forcément. Tout le monde n'est pas forcément. Imposer vos choix, plus ça sera pire.
Mais j'impose. Attendez. Les parents, ils imposent leur choix, Céline. C'est ça l'éducation. Par définition, vous ne demandez
pas.
Mais
vous ne pensez pas qu'ils ne sont pas bêtes, nos enfants.
Je
ne
vous dis pas ça. Je vous dis que c'est un enfant. Vous lui imposez plutôt, dans la première partie de sa vie, vous lui imposez généralement un cadre de vie, vous lui imposez où vous allez en vacances, vous lui imposez ce qu'il mange, etc. C'est pas lui qui décide, c'est ça que je veux dire.
Comment vous expliquer qu'en 95, ça existait déjà en 95?
Mais ça, c'est autre chose. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Et comme aujourd'hui, alors, est-ce que l'aspect.
Les dames, vous cherchez à écraser nos enfants.
Ah non, moi, je cherche rien du tout, je le suis.
À faire une société acceptisée.
Bon, je laisse la parole à Corinne.
C'est ridicule. C'est ridicule. Plus vous leur interdirez, plus ça sera pire. Ils s'autorégulent tout seuls. À aucun moment j'ai vu ma fille sortir en slip. Elle sait pertinemment se réguler toute seule.
Céline.
Alors Corinne, allez-y Corinne. Alors...
Vous ne me connaissez pas du tout. Moi je peux vous dire, je gère mon établissement tel que je le conçois. Je dois protéger les personnes qui sont dans mon établissement scolaire et je préfère prévenir plutôt que guérir. Et c'est mon rôle et c'est la mission qu'on m'a confiée. Et alors là, mais vous parlez de religion chrétienne et tout, je suis dans un établissement laïque et en aucun cas je ferai l'apologie de quelque religion que ce soit.
Non, honnêtement, là, c'est pas le débat d'ailleurs. On va laisser passer une pub, mais là, c'est pas le débat. Mais en revanche, là où moi, j'étais pas non plus d'accord avec Corinne, ce chef d'établissement, c'est que je n'aime pas l'argument qui consiste à dire, au fond, t'as provoqué. Non, les jeunes femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent, bien sûr. Cet argument-là, je le trouve dangereux. Après, tout est question d'âge. C'est ça, après 18 ans, chacun s'habille comme il veut. Mais dans cet âge un peu fragile, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on est sur... je crois que ça réclame un peu de nuance. Voilà, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Ce mot, c'est crop top. Et to crop, en anglais, ça signifie couper. Donc le top crop, c'est un t-shirt coupé. Alors, il est célèbre pour son format XXS. Le top crop a envahi les placards. Il est court, il dévoile le nombril. C'est le t-shirt préféré des ados et des people, au ventre plat, mais pas seulement. Louana est étudiante. Bonjour Louana.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bah, merci à vous.
Vous soutenez les lycéennes ?
Toujours.
Ah, vous avez raison.
Je trouve que leur initiative, elle est super bien. Elles ont répondu à leur manière aux critiques qui leur étaient faites en s'appropriant ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire leur tenue. Et en fait, les tenues dont on parle, c'est des shorts, des t-shirts courts, donc comme vous avez dit, des crop tops. Franchement, quand il fait 35 degrés dans une classe avec 30 élèves, qu'il y a une chaleur insupportable, je trouve que ces vêtements ne sont pas du tout inappropriés. Elles permettent d'être à l'aise, de suivre les cours de manière totalement normale. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout et je trouve qu'elles sont super fortes d'avoir fait cette action.
Mais ça pose d'une manière générale le problème de la tenue à l'école, mais aussi au travail. On ne vient pas toujours au travail ou à l'école habillé comme on veut. On ne vient pas en short et en tongs à l'école, Louana.
Oui, c'est vrai. Mais au travail, en fait, c'est différent de l'école quand même parce que donc au travail, on est avec des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on entretient des relations professionnelles avec certaines personnes, alors qu'à l'école, on est là pour travailler, c'est-à-dire s'instruire, écouter le professeur. Et
c'est la décence dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intime. Vous voyez, on est quand même en représentation. C'est pour ça que est-ce que vous avez les jeans déchirés ? Je pourrais dire la même chose pour les jeans déchirés. Est-ce qu'il y a des établissements ?
Il y a des milieux professionnels, oui, il y a des jeans déchirés, il y a des t-shirts hyper courts, etc. Ça dépend juste de la vision qu'ont les gens dans ce milieu de travail, en fait.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Des tenues ?
Oui, des tenues. Est-ce que vous pensez que chacun peut s'habiller, au fond, comme il veut ?
Oui, surtout à l'école, je trouve que quand on est jeune, c'est un moment où on essaye d'être créatif, d'avoir une personnalité, de se détacher du groupe ou au contraire de ressembler à un groupe. Enfin, il y a toute une construction d'une personnalité qui se fait à l'école et je trouve que c'est hyper important de pas la brider en fait, pour laisser les étudiants et les étudiantes exprimer leur créativité. Et surtout, je trouve que à l'école, c'est encore moins dérangeant parce que la plupart du temps, on dit oui, mais cette tenue, elle va déranger certaines personnes. Alors quand on est à l'école, on est là pour apprendre. C'est-à-dire que si la personne n'est pas assez concentrée sur son cours et qu'en fait, elle fait que attention aux tenues des autres, c'est qu'il faut se poser la question sur cette personne qui ne regarde pas son cours et qui regarde les filles à l'école, en fait.
Bon, merci, Louane. En tout cas, ce n'est pas un référendum qu'on a fait, mais manifestement, mis à part Corinne, qui est chef d'établissement, il y avait... Alors, Charles n'a pas pu intervenir, Nadine non plus, mais ils étaient sur la même ligne que ce crop top devait être... accepté à l'école et qu'il n'était pas scandaleux, loin de là. Et c'était même, on pouvait imaginer que les jeunes filles montrent leur nombril, viennent au lycée avec un ventre qu'on verrait et qu'il n'y a pas à redire là-dessus. Alors ça va s'arrêter parce que de toute façon il va faire froid ces prochains jours.
C'est bien vu.
Cher Laurent Tessier.
Encore un nouveau point météo, hein, décidément.
Ben non, mais c'est important. Alors là, on va se diriger vers un sujet tout à fait différent. Vous souvenez d'Albert Simon ? Il était sur une radio concurrente. Il disait, demain, le Tour de France, il fera beau sur l'ensemble du pays à La Baule. Où passe là le Tour de France, il fera 12 degrés. Vous n'avez pas connu, vous, Albert Simon ? Bon, Laurent,
le Tour de France est aux couleurs de la Slovénie cette année, un pays inattendu et de nom que vous commencez à connaître par cœur.
Primož Roglič a bien fait comprendre à tout le monde qu'il était le plus fort sur ce Tour 2020. Conserve donc ce soir 57 secondes d'avance sur son plus grand rival, son compatriote Tadej Pogacar.
La Slovénie, 2 millions d'habitants, compte un peu plus de 1500 licenciés dans le vélo. 65% des Slovènes pratiquent une activité physique. Mais le pays était plus connu pour ses basketteurs, champions d'Europe en 2017, ses volleyeurs, vice-champions d'Europe en 2019 et ses skieurs. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, on était loin de s'imaginer qu'il serait au sommet du Tour de France, en tête de la plus grande course cycliste du monde. Prenons le leader du Tour, Primoz Roglic. Il était jusqu'en 2012 sauteur à ski. Il a démarré le vélo à 24 ans et son objectif était ambitieux, pouvoir remporter le Tour de France. C'est très bien parti. Roglic est un compétiteur, il en veut toujours plus.
Ce n'est jamais assez. Comme je le dis souvent, quand on a 5 minutes d'avance, on en veut 10. Et quand on en a 10, on en veut plus. Mais c'est toujours mieux d'avoir quand même 50 secondes d'avance sur le deuxième. Donc ça va, je suis content.
Et le peloton a clairement compris qu'il ne pourrait rien faire cette année contre les Slovènes.
Aveu d'impuissance du peloton, souligné par Alexis Vuillermo, coureur âgé de Zerla Mondial.
C'est presque désolant, on voit qu'on ne peut pas faire grand-chose contre eux, donc on doit laisser passer l'orage. C'est que dans le vélo, comme dans le sport, il y a des hauts et des bas, et la roue tournera pour tout le monde.
Pour notre consultant Laurent Jalabert, la domination des Slovènes était nette.
Sur l'ensemble des trois semaines, Primoz Roglic et son équipe, on va les associer évidemment, ont fait la démonstration qu'ils étaient inébranlables.
Bon, il a fallu attendre 2012 pour voir le premier Slovène se placer dans le top 10 du classement général du Tour de France. Alors, ces deux Slovènes en tête du Tour, faut-il y croire? Est-ce la magie de l'épreuve? Voit-on le mal partout parce que les Français ne sont pas au meilleur de leur forme? Avec nous, dans un instant, Romain Feillu, ancien maillot jaune du Tour de France. Et vous le connaissez bien sur RTL pour ses envolées lyriques, Christophe Paco.
13h56, on va en parler. Ça, c'est un sujet évidemment qui fait parler parce qu'on est un peu échaudé avec le Tour de France où on a su après, évidemment, ce qui s'était passé pendant. On va en parler, mais Aude Vernuccio va nous rappeler les titres dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
À la seconde près, précisément, il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Le rappel des titres, Aude Vernuccio.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pour limiter la propagation du coronavirus, Nice renforce ses mesures sanitaires. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes sur les plages, les parcs et les jardins. Fermeture des débits de boissons à minuit et demi. Par ailleurs, des créneaux horaires dédiés aux personnes âgées seront mis en place dans les services publics. Emmanuel Macron appelle les Français à agir face au virus. Lors d'un déplacement dans le Gers, il s'est dit déterminé à se battre pour résister au choc économique provoqué par la pandémie. À Béthune, les élus se mobilisent pour l'usine Bridgestone. Une pétition lancée par la mairie contre la fermeture du site a déjà recueilli 27 000 signatures. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, se rend sur place lundi. C'était la voix des dessins animés, le Serpent K du Livre de la Jungle, Astérix ou encore Winnie l'ourson. L'acteur Roger Carrel, roi du doublage, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Les sports avec la 19e étape du Tour de France.
RTL, Tour de France 2020.
Un peu plus de 160 km entre Bourg-en-Bresse et Champagnole. Le peloton s'est élancé il y a une dizaine de minutes, Raphaël Vantard.
Exactement, une quinzaine pour être précis à Bourg-en-Bresse jusqu'à Champagnole. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 166 km à parcourir en plein cœur du Jura. Et comme presque chaque jour depuis le début de cette grande boucle, une échappée tente de se former dans une étape sans grande difficulté, si ce n'est une côte de quatrième catégorie, la côte de Château-Chalon dans le Jura. Un homme pour le moment réussit à s'extraire de ce peloton. Il s'agit du Français Rémi Cavagna. L'Auvergnat tente sa chance dans cette antépénultième étape de ce Tour de France. Mais les équipes de sprinteurs risquent de revenir fort, d'autant qu'un sprint intermédiaire intervient une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Que Peter Sagan l'a dit ce matin, il n'a pas rendu les armes pour le maillot vert et va tout faire pour détrôner Sam Bennett dans ce classement à points. Un homme donc en tête, le Français Rémi Cavagna, 35 secondes d'avance sur le peloton. La suite de cette 19e étape tout à l'heure à 14h30.
Merci à vous Raphaël Vantard. La météo, une journée très ensoleillée sur tout le quart nord-est, un voile nuageux de plus en plus dense des Pyrénées et du Golfe du Lion à la Bretagne. Cet après-midi, il y aura des orages forts sur le sud-ouest. Côté température, comptez de 22 degrés près de la Manche à 35 pour la maximale sur le nord de l'Auvergne.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Le duel des auditeurs ont la parole.
Et ce duel, il va opposer dans quelques instants Romain Feuillu, qui a participé à 5 Tours de France, qui a porté le maillot jaune en 2008 et qui a fait part de ses doutes, disons-le, à propos des performances des deux leaders actuels de la Grande Boucle. La Grande Boucle, les Slovènes Primož Roglič et Tadej Pogačar. Je le dis pas bien. Bonjour Monsieur Feuillu.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Et l'ami Paco est là également, Christophe Paco.
Pogačar va bien.
Pogačar, je le dis mal. Hein. Pogačar.
Tadej Pogačar.
Ouais. Bon, Romain Feuillu, on va pas se raconter de salade depuis le début du tour. Vous maniez l'ironie sur Twitter pour appuyer vos propos. Vous parlez d'éléphants volants à propos de l'équipe Jumbo-Visma et notamment de Wout van Aert, un sprinter qui est aussi capable de rouler sur des cols pendant plusieurs minutes et faire exploser tous les grimpeurs très loin de l'arrivée et de continuer à rouler, avez-vous écrit. Le dernier tweet, votre dernier tweet, c'est « Quand je pense que certains s'offusquent qu'un mec de 80 kilos monte les cols plus vite que Pantani, le maillot magique les gars, Jumbo !» Alors moi je traduis, voilà, et vous savez très bien comment je vais le traduire. Je ne vais pas le dire à l'antenne parce que je ne suis même pas sûr que je ne tombe pas sous le coup de la diffamation. Mais c'est à vous que je pose la question, Romain Feuillu. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est un petit peu, ouais, en effet, il y avait un message un petit peu ironique derrière, voilà, avec le parallèle avec l'éléphant volant, avec la plume magique, voilà. D'ailleurs, dans un tweet après, c'est ce que j'ai remis. Voilà, mais. Moi, ce qui me surprend, ouais, c'est vraiment cette domination de l'équipe d'une part, et aussi Wout van Aert, là, qui est capable, franchement, pour les connaisseurs, le connaisseur que je suis, être hyper polyvalent comme ça sur tous les terrains, tant au niveau des sprints massifs qu'en montagne ou quoi. L'an passé, il y avait Julien Lafilippe, bien sûr, qui était très fort aussi sur tous les registres, mais il gagnait quand même pas des sprints massifs. Là, on est sur un niveau incroyable de performance.
Non, mais vous y croyez pas. C'est ça la vérité.
L'ancien
cycliste que vous êtes, vous dites, bon, on nous raconte un tour, on nous l'a fait à l'envers, pour reprendre une expression triviale.
Tout le monde n'a pas les mêmes armes. En fait, il y a quelque chose qui est arrivé dans le peloton il y a quelques années, ça s'appelle les cétones, les corps cétoniques, c'est des petites boissons qu'on boit, et puis qui permettent de rouler plus vite, sans taper dans le sucre.
Ceux qui connaissent le vélo savent bien que ce n'est pas normal. C'est aussi une de vos citations.
Tout à fait. Ouais.
Parce que c'est un truc de connaître
le vélo, savoir ce qu'on peut faire avec un corps, les fibres blanches, les fibres rouges, tout ça, ce qu'on peut faire, comment on fait pour être sprinter. Il y a une part aussi de génétique. Être bon dans tous les domaines comme ça naturellement. Même avec le travail, moi je dis c'est pas possible.
Bon, donc vous dites, voilà. Vous dites le mot qu'on ne va pas prononcer, mais auquel tout le monde pense.
Oui, après il y a la nuance justement, parce que selon moi, il y a ce produit qui reste autorisé, mais qui est très
controversé. Mais c'est quoi ce produit alors ?
Les cétones. Ça s'appelle les cétones. Les cétones. Bon. C'est des petites boissons qui se vendent maintenant, qui coûtaient à l'époque, c'était sorti, ça coûtait je crois 3000 euros le litre. Et aujourd'hui, ces petites fioles qui se vendent quand même 80 euros l'unité, et il faut en prendre plusieurs. Alors c'est complètement autorisé, la Jumbo ils s'en cachent pas, ils disent qu'ils en prennent.
Et pourquoi tout le monde n'en prend pas à ce moment-là ?
Eh bien parce que il y a aussi justement là-dessus, au niveau des équipes françaises, les médecins et du MPCC aussi, parce que le MPCC c'est une association qui est là aussi pour veiller au respect des règles antidopage. C'est une association française qui a été fondée par Roger Leger, qui est l'ancien manager du Crédit Agricole, des équipes Z et tout ça. Mmh. Voilà, et cette association-là, elle a des règles aussi contre le dopage, justement, plus strictes encore que celles de l'AMA, et qui est un petit peu avant-gardiste. Et elle a appelé les équipes qui sont participantes à son mouvement à ne pas utiliser justement ces choses-là, d'une pour des raisons de santé et d'équité.
Bon, alors, Christophe Pascaud, d'abord, est-ce qu'il y a des contrôles dans le Tour de France ? Est-ce que, par exemple, donc Pogačar, il est contrôlé tout le temps ?
Ah oui, tout le matin, très tôt.
D'accord, mais si j'étais, si je voulais être polémique, je dirais que Lance Armstrong aussi était contrôlé tout le temps.
Oui,
d'accord. Donc les contrôles, c'est. Et si j'étais encore plus polémique, je vous dirais que vos contrôles sont bidons.
Ah, mais les contrôles à chaque fois, c'est très compliqué, hein, Pascal, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que la science avance plus vite que la justice. Si on reste, Brice Feuilly, qui connaît formidablement le métier, je l'ai interrogé plusieurs fois, notamment quand il était en jaune, il y a plusieurs sujets. Il y a autoriser ou non ces fameux compléments alimentaires, ces corps cétoniques, les cétones. On peut le faire, donc certains le font. Alors jouent-ils avec leur santé ? C'est toujours compliqué. Est-ce que c'est un produit qui touche le foie ? Donc est-ce que dans 20 ans, 30 ans, il y aura des gens qui seront touchés ? Après, t'es pas obligé de le prendre, mais il y a un moment, on te l'impose. s'impose. Il y a une préparation, c'est dans le vélo aujourd'hui. Si ça va beaucoup mieux, Brice Feuillu et Pascal Praud,
c'est Romain.
Mais pourquoi vous appelez
Brice?
Pardon,
c'est les deux frères. Pardon. Parce que l'absus révélateur, parce qu'ils sont deux frères extraordinaires et de grands champions. C'est vrai que quand on te dit que tu peux augmenter ta performance de 15%, ça, voilà, tu t'as envie, quand t'es champion, quand t'as envie d'arriver jusqu'au bout, de gagner peut-être le Tour de France dans une grosse équipe, peut-être qu'on te, on t'oblige à le faire. Je sais pas, vous avez été confronté, Romain, vous, comme beaucoup
il
de coureurs qui se
défendent. Il répondra après la pub. Ah, la pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous mettons les pieds dans le plat sur ce Tour de France qu'on a suivi tous les jours sur RTL. Christophe Pacaud avait la parole.
Oui, j'étais en train de questionner juste Romain Feuillu par rapport à ses 7 tonnes et autres. C'est toujours compliqué quand on te dit que 15% d'augmentation de ta performance, vous, dans votre équipe, Romain Feuillu, est-ce qu'à un moment donné, à l'époque, c'est pas le même produit, hein, même si là, ça fait à peu près 10 ans, je crois qu'il est un peu dans le circuit, mais dans d'autres sports aussi, parce qu'il faut pas oublier d'autres sports non plus. C'est souvent un axe de défense du Tour de France, mais quand même, aujourd'hui, on vous propose peut-être ces produits comme on les a proposés à Julien Alaphilippe l'an dernier, qui est dans une équipe belge et qui prenait ses 7 tonnes. Il s'en est jamais caché, qui prenait ses petits gels. Vous l'acceptez en tout état de cause ou pas, Romain Feuillu? Vous suivez le protocole de votre équipe?
Non, parce que je fais aussi confiance justement au médecin de l'équipe qui dit que c'est potentiellement très dangereux, qu'on n'a pas le recul, que ce produit il a été mis sur le marché, mais qu'il était utilisé pour des personnes qui faisaient des régimes, mais qu'il était pris à petite dose. Là, on n'est pas sur des petites doses. Quand on parle de 4 fioles par jour, voilà. En plus, c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Enfin, c'est quand même à peu près 80 euros la fiole. Si vous en
mais c'est à la
4,
portée de toutes les grandes équipes. C'est pas
ouais,
le problème.
Non, mais il n'y a que l'équipe slovène qui prend cette... Toutes les équipes étrangères, mais pas les équipes françaises.
Non, pas du tout. Toutes les équipes étrangères. Non, pas du tout. Je sais pas. Après, les individualités peuvent en acheter, ça je le sais. En France, rien n'empêche...
Ça a combien de temps ce produit?
Au début, on parlait d'un produit qui était à vendre, c'est des bidons d'un litre, il y a 5-6 ans déjà. Ouais.
C'est ça.
On en parlait, c'est des bidons d'un litre à 3000 euros, voilà, qu'il fallait
mais dans beaucoup mais de c'est sport, autorisé.
Dans
donc
beaucoup de sports, monsieur Romain, je ne veux pas qu'à chaque fois on tape toujours sur le vélo, mais dans beaucoup de sports, hein, c'est connu. Hein.
Vous rendez compte, on vous propose. Moi, je parle de mon milieu parce que je le connais.
Je comprends. Mais justement, c'est votre problème, Romain. C'est le problème de ce milieu quand même, messieurs. Pascal Praud, vous qui avez une appétence pour le sport, c'est que quand on voit cela, quand on sait que les coureurs partent avec 15% de plus, voilà, de chance de gagner, il y a un moment, il faut faire le ménage entre vous. Quoi. Alors, je veux bien qu'il y ait un mouvement cycliste français, mais le mouvement international doit dire, on part à, voilà, sur le...
Non mais on a été un peu échaudés, et pour tout vous dire, moi j'ai des positions en plus, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait ça, il disait Lance Armstrong, ce qu'il a fait, il l'a aussi fait. C'est pour ça que c'est paradoxal.
Ouais,
on a appris qu'il était évidemment dopé, mais en même temps, il a fait ça. Il a fait cet effort. Ouais. C'est un grand champion quand même. Alors c'est un champion qui s'est dopé.
Ouais,
c'est
parce que
vous voyez les images.
Non, vous n'êtes pas d'accord, Romain Feuillu?
Non, parce que par définition, pour moi, un champion ne se dope pas. Il va y aller à la régulière, au combat, et voilà, parce qu'en face de lui, il y a des gens qui sont découverts, qui n'ont pas les mêmes armes. Donc si vous êtes avec
une épée
et que vous êtes avec un pistolet, le mec il a beau être très fort à l'épée.
J'entends. Alors Didier a une question à vous poser. Didier qui est commercial dans la Haute-Marne, je le salue. Bonjour Didier, vous avez une question pour Romain Feuillu.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Feuillu. Je vais vous poser une simple question. Est-ce que si en tête du Tour de France on avait un Français ou deux Français, est-ce que, objectivement, vous auriez les mêmes doutes ou pas?
Non, pas. Très honnêtement, je l'aurais peut-être pas dit pareil. J'aurais peut-être pas dit pareil, mais j'aurais pas les mêmes.
Mais voilà. Un Français dans une équipe française ou un Français dans une équipe étrangère, Romain?
Alors, j'aurais plus de doutes sur un Français dans une équipe étrangère. Je le sais, j'ai été moi-même dans une équipe étrangère.
C'est pour ça que
je
vous pose la question.
Ça fonctionne, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas le même fonctionnement.
Mais pourquoi c'est pas pareil? Racontez-nous pourquoi c'est pas pareil.
Parce qu'en France, il y a eu l'affaire Fessina, on a appris. Ensuite, derrière, il y a eu Cofidis. Et puis, il y a eu encore quelques petits trucs qui ont fait mal au vélo. Et le MPCC, avec Roger Leger, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au vélo. Parce que on a des règles, on est avant-gardiste surtout. Le tramadol, on s'est battu depuis longtemps pour interdire le tramadol. Le tramadol, c'est un antalgique. Je sais pas, vous connaissez peut-être l'exprime, tramadol. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que le MPCC a demandé à interdire, a demandé.
C'est quoi le MPCC?
Le mouvement pour un cyclisme crédible.
D'accord.
C'est une association pour les équipes cyclistes. D'ailleurs, la Sunweb, par exemple, est signataire de ce mouvement. Voilà. Il y a d'autres équipes. Il faut aller voir sur leur site internet comment ça fonctionne et les sponsors aussi.
Ouais.
Et il y a des contrôles ensuite à l'intérieur grâce à ce MPCC où on va contrôler la cortisolémie. Normalement, c'est de façon inopinée. Alors, on a du mal à en avoir beaucoup parce que ça manque aussi un petit peu de budget, cette organisation-là, parce que c'est financé par les coureurs et les équipes elles-mêmes. Voyez,
c'est ça le problème. C'est bien ça le problème.
Voilà.
Bon, est-ce que le confinement, paraît-il, ça a été très compliqué, le confinement pour les cyclistes. Et ils ont dû travailler davantage encore,
différemment.
Et est-ce que durant cette période de confinement, Romain Feuillu, certains ont abusé ou pris des produits illicites selon vous ?
Pendant le confinement, il n'y a pas eu de contrôle avec la distanciation sociale qui devait être respectée. Donc voilà, après... Celui qui a envie de tricher, c'est sûr qu'il a pu tricher très très facilement. C'est une évidence.
Parce qu'il n'y avait pas de contrôle pendant le confinement.
Il n'était pas contrôlable.
Ouais. Donc est-ce que ça a changé les choses ?
Moi je pense que oui. Je pense que oui.
Ouais. Ah oui. Non, mais vous mettez les pieds dans le plat. Hein. Vous mettez les...
Mais les coureurs ont été moins contrôlables. Après, il y a plein de coureurs aussi qui battent leur record de puissance, mais tout le monde bat ses records de puissance.
Mais les Slovènes, ils étaient confinés ou pas ?
Je sais pas, mais
parce que les Français, on est d'accord que les Français,
les Belges et les Néerlandais étaient pas confinés.
Voilà, ouais. Les Français n'ont pas pédalé. Nous sommes d'accord.
Non, mais en fait c'est pareil. Ils n'ont pas pédalé. Après les Belges,
mais les Slovènes ont pédalé.
Les coureurs cyclistes qui avaient une autorisation pour aller pédaler.
Mais les Slovènes ont pédalé, me semble-t-il.
Je ne sais pas exactement comment.
Je pense que les Slovènes ont pédalé.
Mais ce qui est sûr, c'est que les contrôleurs de l'UCI ou qui se déplacent.
Alors que les Français n'ont pas pédalé.
Ils étaient bloqués chez eux. Voilà, ils n'ont pas pu.
Fait du home trainer, quoi.
On va marquer une nouvelle pause. Je lis encore vos citations, hein, Romain Feuillu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même Chris Froome n'était pas aussi extraordinaire que Wout van Aert. Là, on voit bien qu'il y a un truc. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Juste une précision, Pascal. Wout van Aert, c'est le meilleur coureur du monde en ce moment. C'est un peu comme Alaphilippe l'an dernier, quoi. C'est le numéro 1 mondial, quoi. Il gagne tout.
Oui, mais j'entends bien. J'entends bien. Vous êtes sur le tour, vous, et puis c'est vrai que c'est tellement compliqué le cyclisme, parce que là aussi on a tous des positions nuancées, c'est notre ADN, c'est notre ville, Tour de France, c'est notre mémoire,
et
on n'a pas envie de casser ce jouet qui a été parfois cassé, mais en même temps j'entends Romain Feuilly. Oui, surtout sur le Tour de France, en plus dans des conditions difficiles cette année. Une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Romain Feuillu, 5 Tours de France, maillot jaune en 2008. Alors j'ai une question, parce que je ne suis pas un spécialiste ni du cyclisme, ni du dopage, mais comment un cycliste qui prendrait un produit illicite durant le confinement, donc il y a 4 ou 5 mois, comment y aurait-il des conséquences sur son niveau de forme 5 mois après ?
Bah, ça, on l'a vu par le passé, il y a toujours... Des techniques pour se retirer son propre sang, des choses comme ça, enfin voilà, enrichir son sang, le retirer, le remettre plus tard, enfin vous voyez.
Mais vous cinq voyez, mois plus tard, ça marcherait encore,
Vous le retirez, vous le remettez après.
Ça se passe souvent l'hiver, hein, Pascal, généralement.
Voilà. Ouais, mais là, faut expliquer, les amis, parce que je vous assure, faut vraiment expliquer, parce que c'est pas clair.
Romain a bien passé, je pense qu'avec son équipe, il l'a fait, c'est-à-dire que quand on part en stage d'hiver, généralement, on garde des petites poches de sang.
Honnêtement, c'est des choses qui se font. Moi, j'ai jamais fait, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'étais dans l'équipe, par contre, avec Ricardo Rico, qui l'a fait de lui-même.
Voilà, c'est parce que Ricardo Rico, j'allais vous dire chez vous, c'était voilà. C'était
mais expliquez précisément, parce que vous ne répondez pas à ma question. Donc, au mois d'avril, un cycliste qui veut tricher se fait prélever du sang et il le réinjecte en ce moment, c'est ça ?
Oui, non, mais c'est ce qui se faisait à une époque avec.
Parce que ce sang est meilleur du mois d'avril. Parce qu'il a pris des produits.
Bah, Vinokourov,
parce qu'il a été enrichi à l'époque. Vinokourov, c'était ça. Vinokourov qui est aujourd'hui à la tête de Astana. Voilà.
Là, j'ai compris.
Voilà.
Mais j'ai compris.
Oui, après, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est presque même un petit peu dépassé parce qu'il y a des produits qui sont, paraît-il, indétectables. Il y a l'écart qui est là. L'écart pris à microdose, a priori, c'est indétectable. Donc le mec, il.
Pardon, qu'est-ce qui est indétectable, vous avez dit ?
L'écart. C'est un produit qui serait utilisé depuis 2010. Ça s'appelle écart, AICAR.
Oui, mais moi, je ne suis pas un spécialiste, j'essaye de suivre. Oui, mais bon, là, on parle du vélo.
En fait, aujourd'hui, par exemple, hier, ensuite, a été repris un article de l'an passé qui était du docteur Menuet qui parlait justement de ça. Le docteur Menuet, c'était le médecin de l'équipe Fortuneo qui, justement, était aussi assez prudent par rapport aux performances de certains cadors du Tour parce qu'il disait, voilà, il est encore possible de se doper sans se faire choper. Et c'est un docteur qui prône le côté très clean, qui s'est opposé à la prise de tramadol, à la prise de... Voilà. et l'équipe Arkéa Samtic aujourd'hui, ils ont une politique aussi très, très clean, comme toutes les équipes françaises, j'en suis certain.
Bon, un auditeur, Patrice, qui nous écoute et qui est dans le Calvados, qui est agriculteur. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Votre avis sur notre débat et notre conversation.
Alors écoutez, c'est super intéressant. J'ai une petite remarque à faire quant à la formulation que j'ai entendue ce matin dans la matinée, à savoir que fallait-il avoir un doute sur les performances des coureurs parce qu'on avait deux coureurs slovènes. Bon, écoutez, peut-être pas. L'avenir le dira.
Bah, c'est notre débat. Hein. Mais... c'est ouais, notre débat du moment. Romain Feuillu, il dit oui, il faut un doute. Quoi, lui, il a un doute.
Mais écoutez, Romain, qui est un coureur que j'admire, qui est un mec génial, je dirais « Don't make the mud before the rain ». C'est-à-dire, laissez faire les instances qui contrôlent. Parce que
Mais on a été échaudé par le passé. Vous êtes marrant, Patrice. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a des histoires de dopage dans le cyclisme. Donc si on découvre dans 5 ans que ces deux-là, ils étaient chargés comme des mulets...
Après ces deux-là, messieurs, il faut le rappeler quand même, hein, Roglic, ça fait 5 ans qu'il programme cette victoire. Et Le Pogacar, c'est un génie, quoi. Romain, il voit les qualités intrinsèques de...
C'est un génie, Pogacar. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Merckx? Hino
peut-être plus tard, où il y a le petit Hirschi aujourd'hui qui marche, qui est fantastique.
Non, vous dites c'est un génie. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Armstrong?
Ah non, c'est juste aujourd'hui c'est quelqu'un qui vole sur son vélo, quoi, qui a trouvé juste la forme optimale au bon moment et qui depuis un petit moment roule dans son esprit pour essayer de gagner des étapes et pour aller titiller un peu Roglic qui est dans une grosse équipe. Par exemple, l'ancienne grande équipe Sky Ineos aujourd'hui, elle a perdu Bernal, elle est pas partie avec ni Froome ni avec Geraint Thomas, mais ils sont un peu ils ont perdu leur mentor qui est décédé.
Bon, on va conclure. Christophe.
Ça veut dire que aujourd'hui Jumbo, ils ont mis les meilleurs coureurs pour faire la meilleure équipe. Faut pas l'oublier. Bon. L'an dernier, on a eu Alaphilippe pendant 14 jours en jaune. Pinot capable de gagner le tour. C'est vrai que Pinot, il a pas envie de se soigner.
Christophe, on va conclure. Voilà. On va conclure. Pour vous, a priori, ce tour est propre.
Ah non, je dis pas ça. Je dis que pour l'instant, on fait tout pour qu'il soit propre complètement. On
était. Mais votre sentiment?
Le sentiment aujourd'hui, je pense qu'on a fait un gros ménage et que je pense qu'aujourd'hui, dans la préparation, on fait très attention à pas déborder. On le voit. Pinot, il tombe, il va pas prendre un médicament qui aura la loi. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon.
On fait très attention.
Même question pour Romain Feuillu. Est-ce que pour vous, ce tour est propre?
Si on considère que les cétones, c'est être propre, même malgré la controverse et les doses importantes qui peuvent être prises, j'ai pas de preuve du contraire. Mais pour moi, je considère ça pas clean. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la Slovénie, parce qu'on parle de la Slovénie. Alors, bien sûr, j'ai pas de preuve de la culpabilité de Pogačar, et de Roglic. Mais ce que je peux dire, c'est que la Slovénie a été au cœur de la grosse affaire de trafic sanguin, enfin avec Anderlas, là, avec le docteur Schmidt, l'ancien médecin de la Gerolsteiner et tout ça. Ça, c'était, vous pouvez le retrouver dans un article du Monde qui date d'il y a un an. Et quand même, sur une vingtaine, je crois, de Slovènes pro dans le World Tour, il y en a 42% qui ont été positifs sur les 10 dernières années.
Bon, donc, bah merci.
Il y a déjà 42% qui ont triché. Et peut-être d'autres qui ne sont pas fait prendre, mais qui... voilà.
Merci
voilà.
Romain Feuillu. Bravo d'abord, parce que c'était vraiment très intéressant ce que vous avez dit. Et effectivement, ça nous interpelle. Merci également à...
Je voulais juste te dire, je tire mon chapeau à Benoît Cosnefroy et tous des gars comme ça, en qui je crois, Thibaut Pinot aussi, qui a été peut-être un peu cassé sur un mental fragile, mais qui se bat, je sais, avec des moyens.
Eh ben merci. Vous êtes dans le Loir-et-Cher aujourd'hui, Romain Feuillu?
J'y vais. Pour
vous savez que ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière.
C'est ça.
Pogačar, comment vous l'avez dit tout à l'heure? Tadej Pogačar.
Tadej Pogačar.
Je l'ai mal dit, moi, j'ai dit Pogačar.
Primož Roglič.
Ah, vous êtes pépien, Christophe Paco. Bon, vous venez me voir lundi, cher Christophe, avec Raphaël Vontard.
J'envoie le petit.
Vous venez nous dire bonjour. La pub.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.